Sur ce sentiment inconnu, dont l'ennui, la douceur m'obsède, j'hésite à apposer le nom,
désespoir.
Le beau nom grave de tristesse.
Vous vous rendez compte de votre état ?
La mélancolie.
Vous avez envie de guérir ou vous n'avez pas envie ?
Remède.
Ce que je veux avant tout, c'est que les gens se soignent.
À la mélancolie. Eva Bester.
Appelez-moi docteur.
Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission préparée par Corinne Valente et Laure Grand-Besançon, réalisée par Eliane Girard et Frédéric Milano et mise en musique par Muriel Pérez. Aujourd'hui à la technique, Manon Houssin. La gourmandise ce matin est un joli mot que je viens de découvrir et dont l'emploi serait assez répandu en Belgique. Le mot assuétude qui décrit un état de grande dépendance à l'égard d'une substance toxique. Pas d'encouragement à l'éprouver mais seulement à savourer sa musicalité. Notre apothicaire de l'âme passe justement son enfance en Belgique, dans le Brabant wallon, et grandit à la campagne entourée d'animaux. Elle s'imagine médecin ou vétérinaire, mais entre finalement au conservatoire. Avant d'être encouragée à écrire par un auteur dont nous parlerons dans quelques instants, elle se hasarde à exercer les métiers de comédienne, décoratrice d'intérieur et assistante de production. En 2017, elle écrit et interprète le seul en scène Bonobo Moussaka et continue à se faire remarquer avec ses nouvelles sensibles et un premier roman multiprimé, La vraie vie, aux éditions de l'Iconoclaste. Elle vient de publier dans la même maison d'édition le récit Kérosène et a organisé à deux reprises la fête de la pomme en Wallonie. Je vous laisse découvrir de quoi il s'agit, mais j'avais juste envie de dénoncer cette réjouissante appellation. Bonjour Adeline Dieudonné.
Bonjour Eva Bester.
Adeline Dieudonné, quel est votre rapport à la mélancolie ?
Je pense à un rapport relativement apaisé, c'est-à-dire que la mélancolie, c'est quelque chose qui m'aide à, qui me donne envie d'écrire en fait, qui me donne envie de me retirer chez mes Nibelungen intimes et privés, comme disait Tiefen qui avait cette formule-là que je trouvais très très jolie. Mais donc effectivement de me retirer loin du monde et d'imaginer des histoires et donc ouais, c'est une espèce de rapport amour-haine comme ça.
Nibelungen.
Les Nibelungen, qui sont des petites créatures apparemment de la mythologie allemande.
Adeline Dieudonné, là vous dites que vous utilisez le spleen comme matériau d'écriture finalement, mais ça ne vous affecte jamais. J'ai une question, dans votre dernier livre, Kérosène, il y a cette description à propos d'un personnage. Shelley avait senti une vague de tristesse noire s'abattre sur elle, ça lui avait fait l'effet d'une injection de jus de purin dans l'artère fémorale. Est-ce que vous avez déjà ressenti ça? Parce qu'on se dit qu'il faut l'avoir ressenti pour l'écrire.
Oui, bien sûr, ça m'arrive. Mais alors moi, je suis plus quelqu'un qui a peur que quelqu'un qui déprime. Donc, ce qui peut vraiment me réveiller au milieu de la nuit et m'empêcher de me rendormir, c'est plus la peur que la mélancolie ou le spleen.
Et qu'est-ce que vous faites quand vous avez peur ?
Alors, j'essaye de fermer les yeux très fort et de me rendormir.
De mourir.
C'est de crever. Non, alors quand ça me saisit au milieu de la nuit, ouais, c'est compliqué. En général, alors plutôt lire un livre et me dire... Il faut qu'on arrive au lendemain matin très vite parce que vraiment les peurs de la nuit sont les pires, elles sont complètement irrationnelles, elles prennent des proportions abominables et heureusement ça m'arrive pas très souvent. Mais donc en général, il faut me reconnecter aux humains, c'est-à-dire lire un livre ou ouvrir l'ordinateur, aller sur les réseaux sociaux, ça peut être un réflexe mais qui est un très mauvais réflexe parce que du coup j'ai encore plus peur après.
Mais le monde est terrifiant.
Ouais. Mais en général, la fiction, c'est un bon remède. Ouais.
Ça dépend ce que vous lisez. Je sais que vous affectionnez, comme moi, Stephen King. Mm-hmm. Pas forcément rassurant en pleine nuit.
Si, parfois, je trouve que le meilleur remède, c'est d'y aller. C'est le poison, en fait. Oui. C'est d'y aller encore plus fort.
Parce que c'est pire ce qui arrive à ces personnages.
Mais oui. Et finalement, quand on revient dans le réel, on se dit, finalement, ça va.
Adeline Dieudonné. Vous n'avez pas peur de plonger dans la mélasse des ténèbres, que ce soit dans La vraie vie, votre premier roman, où c'est une héroïne qui s'émancipe de la violence atroce de son père, ou que ce soit dans Kérosène, où on voit une galerie de personnages avec tous un peu une âme d'occasion. Je veux dire, ils ont été abîmés, éprouvés par l'existence. Vous y allez volontiers, ça ne vous fait pas peur, les ténèbres ?
Non, ça me fait pas peur parce que je pense justement que ma vie à moi va plutôt bien. Moi, j'ai pas été trop abîmée, même très très peu. Donc j'ai cette chance là de pouvoir y aller. Peut-être que je peux y aller avec un scaphandre de protection. Et voilà, et ça me permet. Je suis très sensible, par contre, à la souffrance des autres. Et comme bah, ce monde en regorge quand même. Énormément, ben justement y aller, plonger là-dedans, ça me permet d'exorciser et de rendre ça plus vivable au quotidien.
Exorciser, on va en parler justement avec vous, Adeline Dieudonné, puisque vous allez convoquer dans quelques instants des sables mouvants, des petites filles désobéissantes, la grande faucheuse, Thomas Gunzig, de l'onanisme, du yoga, Nina Simone, Claudio Loli et un tableau de Magritte. Nous avons jusqu'à 11 heures pour passer tous ces baumes en revue.
Il s'agit d'un petit mec de province. Il aime la musique et le cinéma. Il va au lycée, mais il déteste ça.
Le titre Soul du groupe The Liminianas et de Laurent Garnier dans Remède à la mélancolie sur France Inter avec Adeline Dieudonné.
Qu'est-ce qui vous arrive encore ?
Je ne sais pas, je m'enfonce.
Pourquoi ?
Je ne sais pas, je vous dis.
Vous allez arrêter de faire le pitre quand je vous parle ?
Mais je ne fais pas le pitre. Le terrain se dérobe sous mes pieds, je m'enfonce.
Et pourquoi je m'enfonce pas, moi?
Sans doute parce que vous êtes sur une bande de terrain dur et moi sur une bande de terrain meuble. Si on n'avait pas quitté la route, ça serait pas arrivé, c'est vous qui avez voulu couper.
Mais vous vous enfoncez sans réagir?
Mais si je réagis, je m'enfonce encore plus, c'est bien connu. Faut pas se débattre dans les sables mouvants.
Perrin, il n'y a pas de sable mouvant signalé dans cette région.
Mais si vous voulez mon avis, il est temps de les signaler.
1981, La Chèvre de Francis Weber avec Pierre Richard en comptable crâneur et malchanceux et Gérard Depardieu en détective privé rationnel et consterné par son comparse mais qui se rend compte peu à peu que la malchance de son comparse est d'ordre mathématique. Ça, c'est votre scène préférée, Adeline Dieudonné.
Ah oui, oui. Et ça, effectivement, c'est un remède. Ouais, c'est radical. Et je regarde ça avec ma fille. Ma fille qui a 13 ans maintenant, mais je crois que je lui ai montré ce film quand elle en avait 8. Et chaque fois, on rigole, mais comme des patates. Mais devant tous les Francis Weber en général.
Et je sais que les patates rigolent comme des folles. Il faut dire quand même que tous les Mexicains dans ce film ont un accent français impeccable.
Oui, il y a plein d'incohérences et je pense que ouais, si on le regardait effectivement avec un regard, je sais pas, regarde aujourd'hui sur les clichés sur l'Amérique du Sud, ce serait assez redoutable, quel film quoi. Et Pierre Richard, je suis amoureuse de lui, mais depuis toujours, je crois.
Mais il est assez irrésistible dans ce film.
Ouais.
Vous vous identifiez le plus à Perrin ou à Campana?
Je crois à Campana. Parce que j'ai un côté...
Donc Gérard Depardieu, le détective.
Ouais, plutôt rationnel, plutôt à pas croire. Et je suis pas une grande maladroite. Enfin, quoique... Non, ça, en fait, ça peut dépendre. Je pourrais aussi bien m'identifier à Perrin, se prendre les pieds dans le tapis tout le temps. C'est vrai que non, ça peut être moi aussi. Les deux. Et c'est ça la magie de ce film, peut-être. Ouais.
Sonate pour piano numéro 12 en la bémol de Beethoven intitulée Marche funèbre pour introduire l'idée qui vous réconforte, Adeline Dieudonné, je vous lis. Je pense aux gens merveilleux que j'ai la chance de côtoyer et puis je pense au fait qu'ils vont tous mourir un jour, certains avant moi. À ce moment-là, le spleen reprend un peu le dessus. Et puis je me dis que le mieux c'est d'en profiter un max avant que ça n'arrive et je me dis aussi que la mort a quelque chose de réconfortant. La mort a quelque chose de réconfortant.
Oui, parce que ça va se terminer un jour. Alors je suis terrifiée par la mort des gens que j'aime, et donc c'est pour ça que la mort est réconfortante, c'est que je me dis ça pourra toujours être un refuge. Enfin, je veux dire, on peut appuyer sur off un moment. Donc par rapport à ça, oui, je trouve ça réconfortant. Il y a des souffrances que je me sens absolument pas de taille à affronter. La mort de mes enfants, la mort de gens que j'aime vraiment énormément, je suis pas du tout certaine d'avoir envie de leur survivre, et donc même une mort précoce en fait me réconforte plutôt. Je suis assez à l'aise avec ça, de me dire qu'à un moment ça va s'arrêter. J'ai pas envie de souffrir, mais justement mourir c'est une façon d'échapper à la souffrance, ouais.
Et vous n'avez pas peur de mourir, c'est-à-dire que oui, évidemment, il y a la maladie ou la souffrance ou l'accident juste avant qui peuvent créer une douleur intolérable. Cela dit, aucun mort n'est revenu d'entre les morts pour nous raconter comment ça se passait. Mmh. Si ça se trouve, on continue de crier pendant des décennies et personne n'entend. Mais votre disparition à vous, vraiment, ne vous fait absolument pas peur?
Non.
Vous ne vous dites pas, j'aurai pas le temps de faire tout ce que j'ai envie de faire?
Non, parce que je crois que j'ai réduit très très fort le champ des choses que j'ai envie de faire.
C'est-à-dire
que
j'ai... En les faisant?
En les faisant, oui, c'est sûr que ce que j'ai vécu là depuis presque 3 ans avec La Vraie Vie, c'est incroyable. J'ai fait deux enfants merveilleuses. Ce qui me fait juste peur, ce serait de disparaître, encore dans les 10 prochaines années, parce que j'ai quand même envie de les amener jusqu'à l'âge adulte. J'ai envie de pouvoir les accompagner, pouvoir leur lâcher la main à un moment qui sera pas trop horrible pour elles. Et donc, même si c'est toujours horrible de perdre sa maman, hein, j'ai la chance d'avoir encore la mienne, et je pense que le jour où elle partira, je serai abominablement malheureuse. Mais enfin, voilà, une fois qu'ils sont adultes, une fois qu'ils sont autonomes, c'est quand même autre chose. Et puis, j'ai réduit aussi le champ des choses que j'ai envie de faire, dans le sens où... Ouais, plus j'avance, plus j'ai envie de choses très 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 simples. Et donc j'ai pas de grandes, j'ai pas des envies de voyage de fou. J'ai envie d'écrire encore des livres, mais de nouveau, ben le jour où ça s'arrêtera. Et non, ça me fait pas peur. J'ai pas peur qu'on m'oublie non plus. Je sais pas. Peut-être parce que je me sens pas très importante, enfin, ou parce que tout ça me paraît pas très important à l'échelle de la marche de l'univers. Je sais pas. Je me sens pas très grande dans tout ça. Et donc disparaître, oui, c'est pas grave. D'autant plus que je suis assez persuadée que c'est une vraie disparition. C'est-à-dire que je crois pas beaucoup à la vie après la mort. Et donc c'est juste le grand rien. Bizarrement, ça m'angoisse pas.
Et ça vous angoisse pas de revenir ? Parce que moi, j'ai essayé de négocier avec un gourou pour ne jamais me réincarner.
Bah, de nouveau, la réincarnation, à partir du moment où on considère qu'il n'y a pas de mémoire, c'est pas vraiment un retour, en fait.
Ah, il n'y a aucune mémoire.
Bah, vous vous souvenez, vous, de vos vies
quand
d'avant ?
J'étais un taureau, bien sûr. Et alors, Adeline Dieudonné, ça semble vous travailler cette question de la mort des autres.
Ouais.
Est-ce que vous y pensez souvent ?
Ouais, ça, j'y pense vraiment beaucoup.
Et ça vous rend mélancolique?
Ça me rend pas forcément... Enfin oui, si ça peut me rendre un petit peu mélancolique. En fait, c'est bizarre, mais j'essaye de m'y préparer. Alors que je sais très bien qu'il n'y a rien qui peut m'y préparer. Mais le fait d'y penser beaucoup... En fait, ce qui me fait très très peur, c'est que quelqu'un que j'aime disparaisse et que je me dise « Merde, j'en ai pas assez profité ». Et donc, j'essaye d'y penser beaucoup en me disant « Il faut que j'en profite au maximum ». Tout en sachant très bien que le jour où ça arrivera, évidemment, je me dirai « J'en ai pas assez profité ». Parce que sinon, je passerai 24 heures sur 24 avec mes parents, et avec mes enfants, et avec mes amis. Donc forcément, je sais que j'aurai un regret. Mais je sais pas, le fait de l'anticiper, peut-être que ça fera que le regret sera moins grand. Parce que je me dirai « C'est pas comme si tu savais pas que ça allait arriver ».
Yes, good little girls go to heaven, but smart little girls go to Van Cleef and Arpels, to Tiffany's and to Cartier's.
Hertha Kitt, Good Little Girls, pour introduire votre citation consolatoire, Adeline Dieudonné. Il s'agit du dicton populaire américain suivant. Les petites filles obéissantes vont au paradis, les autres vont où elles veulent. Dans quelle catégorie vous classez-vous ?
Ah, les obéissantes, hein, malheureusement.
Oh non !
Mais plus j'avance, plus je vais où je veux et plus je m'en défais et je suis super heureuse de ça. Mais j'ai vraiment été élevée et je suis de base une petite fille très 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 obéissante. Donc maintenant, mais c'est fascinant de s'échapper de ça et justement de m'observer en petite fille obéissante et en me disant constamment, t'as le droit de pas obéir. T'as le droit de pas le faire. Et donc, en fait, je vis des espèces de libération permanente. C'est super agréable. Mais j'essaye surtout d'apprendre ça à mes filles, de leur montrer qu'elles aillent où elles veulent, d'autant plus qu'elles auront la chance de grandir dans un milieu, dans un contexte ultra favorable. Et donc vraiment, il n'y a aucune raison de se priver. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui passent beaucoup de temps à nous dire tout ce qu'on n'a pas le droit de faire. Et mon Dieu, qu'est-ce qu'on est conditionné à ça, quoi. Et qu'est-ce que j'ai envie qu'elle puisse y échapper plus vite que moi. Parce que moi, je regrette d'avoir été obéissante sur plein de trucs. Donc,
par exemple.
Surtout en amour, je regrette quand j'étais ado de pas avoir sauté sur tous les mecs qui me faisaient envie, parce qu'on me faisait passer ce message que j'allais avoir j'allais être prise pour une salope ou pour une et je regrette très fort d'avoir obéi à ça, surtout que tous les gars évidemment ils disent mais pourquoi pourquoi tu l'as pas fait, pourquoi je l'ai pas fait, c'est con. Il y a ça, il y a puis en amour ce dogme de il faut être fidèle, il faut vivre ensemble, il faut se marier, il faut ceci, il faut cela. Qu'est-ce que j'ai perdu comme temps aussi avec ces bêtises là
De tout de suite aller faire des orgies avec tout le monde.
Ouais. Mais oui. Je parle pas spécialement d'orgies, mais de se dire tiens, de quoi t'as envie toi et de quoi j'ai envie moi et comment est-ce qu'on compose juste avec ces deux choses là qui sont déjà extrêmement complexes, plutôt que d'aller composer avec en plus des espèces de dogmes et des recettes toutes faites qui conviennent finalement à très peu de gens, je crois.
Adeline Dieudonné, est-ce qu'on peut dire, j'ai l'impression qu'on peut le dire avec tout ce que vous venez de livrer, que vous prenez de facilement des risques aujourd'hui.
Oui. Ouais.
Et vous avez encore peur ? Tout à l'heure, vous disiez que vous étiez quelqu'un de peureux.
Non, je suis pas quelqu'un de peureux.
Vous avez plus de peur que de spleen, pardon.
Ouais, j'ai des peurs nocturnes, mais c'est plus des peurs.
Oui, nocturne, c'est normal puisque c'est l'heure où les démons sortent.
Oui, c'est ça. Oui, mais je suis pas. Non, c'est à dire que je me laisse pas forcément guider par mes peurs, et c'est vrai que je vais plutôt prendre des risques. Après, j'aime bien ma zone de confort aussi, hein, donc parfois j'en peux me secouer aussi pour en sortir, parce que surtout qu'elle est de plus en plus confortable, ma zone de confort. Donc c'est ça, c'est toujours une espèce de compromis que je dois trouver avec moi-même, temps en temps, de dire ok, reste dans ta zone de confort, c'est là que t'es bien, bouge pas, et il y a aucune raison d'aller te faire mal ou d'aller prendre des risques. Et puis de temps en temps, quand même, d'avoir envie d'en sortir et d'aller voir ce qui se passe dehors.
I won't settle for less. I'm convinced, and once I'm convinced, then I manifest. A catalog of parables is broke down in a tongue. That's been corrupting, no substance to be hidden from. Now we see rough air, rough world from a dream. A stream underwater without a hops in the scene. Not the pacifier, but homie, the truly change. When you stare at the heavens, you see the stars are rearranged. So be evolution of change, the pulsate, the mind state is not impossible for our mission to succeed. You ask, are we chosen? I'll say indeed. We studied and trained for a warrior mind frame. The counselors gather thicker than soldiers, loud and don't fret, cause it ain't over yet. By the time it is, the crowds are turning to cheers. No fears, just hold on tight, because the dollars will be over by the end of the fight. With doubts and fear, jealousy, things that cause casualty to your soul. Let it go. Most of all, be hopeful. Hopeful.
Hopeful. Hopeful. Hopeful.
Let's just be
hopeful.
When you can't see,
hopeful.
Just remain
hopeful.
Yeah.
de Curtis Harding dans Remède à la mélancolie sur France Inter, toujours en compagnie d'Adeline Dieudonné. Votre sérum littéraire est le roman Feel Good de l'écrivain, scénariste et chroniqueur belge Thomas Gunzig, roman paru en 2019 au Diable Vauvert. Mais alors, avant d'en parler, est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur cet écrivain qui vous a encouragé à exercer le même métier?
Ah oui, avec grand plaisir. Thomas Gunzig, c'était quelqu'un que je connaissais. Je connaissais l'écrivain et je connaissais le chroniqueur radio parce qu'il est, il est très très connu chez nous. Et un jour, je l'ai rencontré et c'était un moment de ma vie où moi j'étais complètement paumée. Je savais pas ce que j'allais faire de ma vie. Je savais pas. Et j'étais vraiment prise très très fort par mes angoisses, surtout pour mes enfants, de me dire j'ai mis deux enfants dans ce monde-ci qui est en train de merder complètement. Et on a papoté et puis il m'a dit mais c'est quand même vachement intéressant tout ce que tu racontes, pourquoi t'essayes pas de l'écrire et puis ce serait une bonne façon d'exorciser tes angoisses. Je lui dis parce que ça va intéresser personne. Il m'a dit t'en sais rien, essaye. Et donc effectivement c'est lui qui m'a donné cet impulse de commencer à écrire et puis j'ai commencé. C'est comme ça que j'écris Bonobo Moussaka. Je lui ai envoyé, il m'a dit mais il faut absolument que tu continues. Et puis moi j'avais besoin que quelqu'un m'autorise à écrire et j'avais besoin qu'un homme m'autorise à écrire, ce qui est un petit peu
Vous la petite fille obéissante.
Ouais, mais oui.
Mais là, vous en revenez de ça.
J'en reviens, oui, de plus en plus. Mais je vois à quel point je suis conditionnée par ça. Et donc maintenant que j'ai compris le conditionnement, je m'en libère de plus en plus. Et puis c'est pas évident. C'est pour ça que voilà, tous les mouvements féministes d'aujourd'hui, je trouve ça super stimulant parce que ça ouvre plein de portes et ça libère plein de trucs. Mais donc bref, à ce moment-là, j'avais encore besoin qu'un homme me dise si tu as le droit d'écrire ma petite. Et donc c'est comme ça que j'ai commencé à écrire et c'est vrai que j'avais une admiration énorme pour l'écriture de Thomas. À ce moment-là, il venait de publier La vie sauvage, qui était son, je sais pas, 40e roman parce qu'il en a écrit beaucoup. Et j'adore son mélange. À la fois, il y a toujours une vraie critique sociale. Il y a toujours beaucoup d'humour aussi. Donc, c'est des livres qu'on lit avec énormément de plaisir. Et puis, il y a une grande, grande qualité littéraire. Donc c'est vrai que j'ai un peu observé comment il faisait. J'ai un peu observé son écriture pour m'en inspirer, pour me dire ah oui ok c'est comme ça qu'on construit une image. Où va se nicher la littérature. Il s'agit pas juste d'écrire une histoire. C'est aussi comment est-ce qu'on va aller convoquer des images poétiques ou de temps en temps presque des punchlines. Et voilà. Et c'est vrai que Feel Good c'est un roman qu'il a publié en 2019 évidemment le titre est tout trouvé, c'était facile pour l'émission. Et c'est un livre qui est fabuleux. C'est le roman de, ce sont deux personnes qui se rencontrent, un écrivain qui se considère comme un écrivain raté, une jeune femme qui vend des chaussures, enfin une jeune femme plus si jeune en fait, et c'est ça le problème. Elle a 45 ans, elle est vendeuse dans un magasin de chaussures, elle se retrouve au chômage et en fait elle retrouve pas de boulot et donc ça va être sa descente aux enfers. Et il raconte super bien cette précarité et elle décide à court de toute ressource de kidnapper un bébé. Et ça va être ces deux bras cassés qui vont se rencontrer, cet écrivain qui est aussi aux portes de la précarité et cette femme et ils vont se rencontrer avec ce bébé qu'elle a kidnappé et c'est juste extraordinaire.
Thomas Gunzig commence de façon assez douce et raconte très vite des choses terribles sans effet dramatique, c'est-à-dire que cette Alice qui perd son travail assez vite se retrouve dans la misère et essaye de se prostituer d'abord. Donc elle se prostitue une fois. Ouais. Et puis finalement, elle se dit non, c'est pas possible. Et elle va kidnapper un bébé. Et la cruauté du sort, personne ne réclame ce bébé. Donc c'est une bouche de plus à nourrir.
Exactement. Elle se retrouve avec ce petit bout de chou dont elle avait absolument pas besoin. Parce qu'elle a déjà un petit garçon, mais qui a 8 ans.
C'est pour lui d'ailleurs qu'elle veut avoir plus d'argent.
Ah oui, évidemment, oui, parce qu'elle se rend compte qu'elle arrive plus même à lui donner des légumes au quotidien, des légumes, des fruits. Enfin, vraiment, on est dans, et en fait, dans quelque chose d'assez classique, d'assez courant. Une misère comme ça qui n'est pas, alors ils sont pas encore à la rue, mais ils sont vraiment à deux doigts de l'expropriation. Et effectivement, elle se retrouve avec ce petit bébé qui elle doit s'en occuper parce que c'est un bébé et voilà. Et effectivement, personne ne le réclame. C'est complètement absurde.
Adeline Dieudonné, j'aimerais bien que vous nous lisiez un extrait de Feel Good, et pendant que vous le cherchez dans le livre, je voudrais juste raconter une anecdote très amusante que j'ai lue au sujet de Thomas Gunzig. C'est que pour récupérer en 2008, c'est vrai,
oui, c'est
vous
vrai.
Opinez du chef, pour récupérer les droits d'un de ses recueils de nouvelles, Carbo Waterstomp, je pense que je le prononce mal, et pour éviter les coups d'un procès, lui qui était ceinture marron de karaté, provoque en duel l'éditeur Luc Pire, ceinture rouge de taekwondo, pendant la foire du livre de Bruxelles, et le combat se termine, Thomas Gunzig gagne et récupère ses droits.
Ouais,
c'est merveilleux.
C'est génial, hein.
Si tout pouvait se régler comme ça. Mais c'est oui. Les duels, en fait, à l'ancienne.
Mais oui, exactement. Et un peu de force physique, finalement.
Ouais, peut-être qu'on perdrait beaucoup aussi, je sais pas.
Bah, faut s'entraîner. Mais ouais, il était bien entraîné. Et puis en face. Et c'est vrai que c'est cool aussi de la part de l'éditeur d'avoir accepté le défi.
Ouais.
Et d'avoir été beau joueur. Au final, voilà, il a perdu les droits. Et c'est vrai que c'est beaucoup plus rigolo et amusant et ludique qu'un procès avec qui coûte de l'argent à tout le monde.
Ouais, c'est tellement désuet, les procès.
Voilà. Tellement has-been.
Alors, on vous écoute.
Alors, donc c'est pour recontextualiser un tout petit peu, c'est un moment où Alice, donc l'héroïne, a donné rendez-vous à Séverine, qui est une amie d'enfance qui était très très riche, et elle lui donne rendez-vous en espérant que Séverine va pouvoir lui donner un petit coup de main. Séverine avait donné rendez-vous à Alice dans un café qui ne s'appelait pas un café, mais un lieu. Dans la mesure où, en plus de proposer un large choix de café bio, de thé bio et d'une boisson appelée le pocha, un thé tibétain au beurre de yak, il y avait aussi des expositions de jeunes artistes. En ce moment, il s'agissait de photographies en noir et blanc et en gros plan de nœuds faits dans des morceaux de lin. Et parfois, en soirée, des mix proposés par des DJ, une affiche colorée annonçait une soirée lounge avec un collectif Pepito et Yuka, avec le A en hâte. Alice était venue avec Agathe, c'était un joli quartier où tout avait l'air plus propre que dans la plupart des autres quartiers et où, bizarrement, le climat avait l'air plus clément et l'air plus pur qu'ailleurs.
Feel Good, Thomas Gunzig.
Madame rêve d'atomise et de cylindres si longs qu'ils sont les seuls qui la remplissent de bonheur. Madame rêve d'artifice, de formes oblongues et de totems qui la punissent. Rêve d'archipel, de vagues perpétuelles, sismiques et sensuelles.
Madame rêve d'Alain Bashung pour instaurer un climat de solitude érotique en studio. Adeline Dieudonné, bravo, enfin quelqu'un qui met dans ses remèdes la masturbation comme activité anti-spleen. Celle que Woody Allen, qu'on ne peut plus citer, je sais, mais bon, quand même, la manière la plus sûre de faire l'amour avec quelqu'un qu'on aime.
Et quoi, je suis la première à le proposer ?
Mais oui, j'ai l'impression, ou alors j'ai une mauvaise mémoire, peut-être une autre personne, mais
okay.
Vraiment, l'émission existe depuis 2013 et...
D'accord,
ouais.
Ah oui, c'est surprenant ça.
Ouais. Ou alors, mais alors, l'onanisme triste, ça existe aussi. Vous savez, une tristesse qui vous accapare immédiatement après, mais je le dis parce que beaucoup de gens qui m'en parlent aussi l'ont expérimenté.
Oui.
Parce que okay, moi, vous savez, la sexualité, j'en ai entendu parler, mais je ne la pratique pas.
Bien sûr, évidemment. Comme la défécation, c'est quelque chose que...
La quoi ? Pardon.
D'accord. D'être triste après... mais alors, c'est qu'il y a autre chose. C'est qu'il y a une peut-être ça a pu m'arriver, mais quand il y avait un manque affectif, c'est-à-dire que pour moi la masturbation, elle vient rien combler, elle vient rien remplacer. C'est juste, effectivement, bah c'est vrai que je trouve la citation de Woody Allen assez juste. Et puis il y a pas de mal à se faire du bien. Et puis c'est un petit plaisir qu'on se fait comme ça. Après, c'est vrai que ça m'est jamais arrivé de le faire parce que. Par défaut, ou parce que... Ah si, en fait, peut-être. Et alors là, c'est triste, effectivement. Quand on le fait, parce qu'on se dit, j'ai personne avec qui faire l'amour, et donc je dois me masturber, là ça devient tristoun, ouais. Et là, c'est vrai que ça peut être un peu douloureux. Mais sinon, c'est plutôt chouette de se dire, justement, ça vient en plus, ou ça vient à côté de... Mais d'où l'intérêt de vivre seul, hein, aussi, je trouve... C'est que justement, on a ces moments-là où on est seul avec soi-même, où on se dit pas, tiens, c'est un truc que je dois faire en cachette parce que l'autre pourrait être vexé Bah non, en fait, il n'y a pas à être vexé. Ça n'entre en concurrence avec rien, je pense.
Ah oui, il n'y a pas de rivalité.
Bah non. Bah, vous seriez surprise. Hein, de... il y a des gens qui le prennent mal.
Ah oui? Bon, j'imagine. Vous savez, ouais. Moi, les gens, je ne les connais pas.
Non, c'est ça. Ne les fréquentons plus.
Non. Dans les autres activités qui vous grisent, Adeline Dieudonné, il y a l'écriture et le yoga. Alors, l'écriture, jamais douloureuse, et le yoga, jamais ennuyeux?
Alors si, l'écriture, parfois douloureuse, parfois ennuyeuse, je prends même rarement de vrai plaisir. Enfin, c'est difficile l'écriture. C'est toujours un travail, c'est toujours quelque chose dans lequel je dois un petit peu me mobiliser pour y aller. Je fais pas partie de ces écrivains qui disent que c'est leur hobby. C'est pas un hobby, c'est vraiment quelque chose, faut y
c'est
aller.
C'est un labeur.
Ouais. Alors le yoga, jamais ennuyeux. Non, ça vraiment. Et pourtant, je fais un yoga qui est très répétitif, qui est l'ashtanga.
Donc c'est assez dynamique. Vous le faites toute seule ou vous prenez des cours?
Les deux. Je préfère le pratiquer en groupe, contrairement à la masturbation. je préfère. C'est quand même beaucoup plus agréable de le faire dans une salle avec et d'avoir le prof qui corrige et tout ça. Mais après, vraiment, l'ashtanga, une fois qu'on connaît la série, c'est tout le temps la même suite de mouvements. Donc non, c'est jamais ennuyeux. Et c'est vraiment un dialogue avec son corps que je trouve. Et c'est pour ça que c'est jamais la même chose. C'est vraiment c'est les mêmes mouvements, mais on les ressent jamais exactement la même façon. Et j'adore ça. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me. Ooh. And I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on the tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, and I'm feeling good. Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun, you know what I mean? Sleep in peace when day is done, that's what I mean. And this old world is a new world and a bold world. You shine, you know how I feel. Scent of the pine, you know how I feel. Oh, freedom is mine, and I know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life.
Sur France Inter, nous sommes avec Adeline Dieudonné qui a choisi comme antidote musical une reprise de 1965, Feeling Good. On parlait du livre Feel Good tout à l'heure, par Nina Simone.
Vous voyez tout de suite mon originalité.
Non mais c'est vrai, je veux dire, c'est quand même grisant de penser ce que dit la chanson. C'est une nouvelle aube, c'est un nouveau jour, c'est une nouvelle vie pour moi, et ce vieux monde est un nouveau monde.
Mais oui, non, elle est sublime cette chanson, elle prend pas une ride, et j'avoue que je la beugle régulièrement dans ma salle de bain, aux grandes dames de mes voisins. Mais c'est une commencer un dimanche matin par Feel Good de Nina Simone, ouais, c'est fabuleux.
Adeline Jeudonné, il paraît que vous avez une playlist entière intitulée Good Mood, bonne humeur.
Ah oui, ouais, c'est vrai. Ouais, ouais. Bah, sur laquelle il y a notamment Nina Simone. Ouais.
Vecchia piccola borghesia, per piccina che tu sia, non so dire se fai più rabbia, pena, schifo o malinconia.
Autre choix, Adeline Dieudonné, le morceau de 1972, La Borghesia, du chanteur et écrivain italien Claudio Lolli, figurant sur l'album, je tiens à le préciser, Aspettando Godot, en attendant Godot, référence à Beckett bien sûr, une critique de la bourgeoisie, là ça y est, on se rebelle dans cette émission.
Ouais, ça y est, voilà, on jette tout.
Parce qu'il se demande si les bourgeois en fait provoquent plus de colère, de douleur, de dégoût ou de mélancolie.
Ouais. Ah, elle est très très belle. J'ai mis du temps à aller regarder les paroles, d'autant plus que mon italien est très rudimentaire. Mais c'est surtout, j'adorais cette chanson avant même de comprendre ce qu'elle racontait, parce que il y a quelque chose. C'est vraiment très très bête. Hein, les clichés que je projette sur l'Italie. Tout à coup, moi j'entends ça, je me vois sur une petite place d'Italie au soleil ou sur une Vespa derrière un très beau mec. Enfin, j'en sais rien, mais des trucs à la con. Mais cette chanson me met de super bonne humeur. Ouais.
Adeline Dieudonné, il paraît que vous écoutez du heavy metal quand vous écrivez.
Ouais. Toujours et le métal, ben on parlait de l'obéissance tout à l'heure, et en fait pour moi le métal ça m'aide vraiment à faire sauter les barrières sociales, et donc entendre des gens beugler, c'est tellement viscéral comme musique que ça m'aide à, parce que voilà, moi pour écrire j'ai besoin d'être dans une sincérité absolue, et donc d'aller chercher des choses au fond de moi qui sont pas forcément toujours avouables, et le métal m'aide à ça, à faire sauter ces barrières.
Quel groupe par exemple, vous avez une recommandation pour les auditeurs?
Alors il y a un groupe que j'adore qui est Amon Amarth. Et là, c'est vraiment du gros métal de viking. Si on regarde la pochette, on voit vraiment un mec habillé en viking avec des gros muscles comme ça. Et Amon Amarth, on a l'impression d'avoir effectivement une armée de vikings derrière soi qui vont « Allez, Adeline, vas-y, écris !»
Mais ils sont derrière vous.
Ils sont derrière... Ouais. Ah ouais.
Le choix de passer un morceau de la bande originale du film culte L'Exorciste de William Friedkin pourrait être surprenant pour parler du peintre surréaliste belge René Magritte. Mais Adeline Dieudonné, vous avez choisi sa série de tableaux peintes entre 1953 et 1954 qui fut une source d'inspiration pour L'Exorciste. C'est la série L'Empire des Lumières dont je vous laisse nous décrire le principe.
Ah, mais je savais pas ça du tout. L'Empire des Lumières. Alors il y a ce tableau qui était juste dingue. J'ai une famille qui était pas très très portée sur la culture en général et certainement pas sur l'art pictural en particulier. Mais on avait une reproduction, enfin un poster à la maison de ce tableau de Magritte où on a cette maison qui est dans la pénombre avec les réverbères qui sont allumés et donc vraiment c'est la nuit, sauf que le ciel au-dessus est un ciel bleu
radieux.
Avec juste radieux, avec juste quelques petits nuages blancs comme ça. Et donc on a vraiment ce contraste entre le jour et la nuit, entre la lumière et l'ombre. Mais c'est vrai qu'il y a une atmosphère qui émane de ce tableau qui est à la fois très réconfortante, je trouve, et un petit peu inquiétante. C'est-à-dire qu'on se demande ce qui se passe dans cette maison. Il y a quelque chose un peu apocalyptique aussi, de se dire, tiens, le jour où le jour et la nuit vont se rencontrer, c'est peut-être la fin du monde. Donc, ouais, c'est un tableau qui est très inspirant. Mais vous parlez de série, c'était une série de tableaux.
Oui, alors
fait,
parce qu'en fait, quand on tape l'Empire des Lumières, ouais, on trouve le tableau en question. Mais en fait, il y a plein d'autres tableaux qu'on confond assez facilement avec celui-là. Mais c'est une série. Il en a fait plusieurs avec le même principe, une maison plongée dans la nuit, dans vraiment la nuit en bas du tableau, ouais, et au-dessus un ciel d'après-midi bleu éclatant.
Ah d'accord. Ah ben je savais pas. Moi, je connaissais vraiment que ce tableau-là.
Mais c'est le plus connu.
Qui est le plus connu. Ah ouais, d'accord.
Je l'ai découvert aussi en préparant l'émission. Hein,
ok.
Une série.
Et donc c'est là qu'on voit que moi je n'ai pas préparé.
Oui, mais c'est normal parce que c'est mon boulot. Vous devez parler de votre ressenti. C'est pour ça qu'on vous invite. Qu'est-ce que la fête de la pomme?
Ah,
c'est la dernière question de cette émission, Adeline Jeudonné.
Alors la fête de la pomme.
Vous qui êtes passionnée d'écologie.
Ben voilà, exactement. C'est-à-dire que moi je travaillais comme assistante dans un bureau d'études d'archi d'intérieur. Et j'en avais marre de vendre des plaids et des coussins à des gens très riches. Mon boulot n'avait aucun sens alors que je me disais qu'il fallait changer le monde pour mes enfants. Qu'effectivement, c'est même plus qu'une urgence. Là, on est déjà dedans et on fait pas grand chose pour que ça change, pour adopter un mode de vie plus sain et plus écolo. Et donc, à ma toute petite échelle, je me suis dit, pourquoi pas faire une fête autour d'un produit local et de saison qui est la pomme. Et donc, je suis allée voir des producteurs, je me suis associée à une dame qui avait envie de faire la même chose que moi. Et on a organisé cette fête de la pomme. Et donc, il y avait un pressoir, on pouvait venir faire presser ses pommes. Et donc, c'était dingue, un cuisinier extraordinaire qui faisait toutes des recettes autour de la pomme. Et c'était vraiment juste pour dire aux gens... pas manger des pommes, parce que je suis pas Chirac, mais effectivement valoriser les produits du terroir.
Merci beaucoup, Adeline Jeudonné, pour cette confidence qui restera vraiment entre vous, moi et 1,5 million d'auditeurs en moyenne. Bah, merci d'ailleurs, j'en profite pour remercier les auditeurs. Merci d'être venu dans l'émission. Je rappelle que votre dernier livre, Kérosène, est paru en avril aux éditions de l'Iconoclaste. Et je crois que La Vraie Vie sera bientôt adaptée en film, non, par Marie Monge?
Absolument, absolument. Et je pense que ça va dépasser le roman, tellement son scénario est incroyable. J'y ai pas participé, donc je peux le dire.
D'accord, je croyais que vous aviez collaboré. Chers auditeurs, c'est terminé. La programmation musicale, les remèdes sont comme toujours sur le site de l'émission, qui est elle-même sur les réseaux sociaux. J'espère que votre âme est à présent aussi sereine qu'une babouche réincarnée en séraphin. Rendez-vous dimanche prochain à 10h10.